Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7. En ces temps d'élections présidentielles et législatives, il est bon de retourner en 1848 à la naissance du suffrage universel lors de la Révolution de 1848, exactement celle de février 1848. Ce suffrage universel était un vieux désir de la Révolution française, mais c'est Ledru-Rollin qui le fera voter en 1848. Ce suffrage a aujourd'hui 174 ans et plus personne ne se soucie de ce qu'il soulava comme joie, colère, doute même, lors de sa naissance. Alors, j'ai envie de vous lire un tout petit extrait de Gustave Claudin. Alors juste une parenthèse, Gustave Claudin était un boulevardier et journaliste extrêmement connu à l'époque. Voici donc ce qu'il écrit. En proclamant ce suffrage universel, on soumettait la tête intelligente qui est une aux pieds bêtes qui sont deux. Je ne suis point l'ennemi du suffrage universel, mais je le voudrais pondéré et contenu. Évidemment, aujourd'hui, l'on peut se soulever contre cette idée. Peut-être que Claudin n'avait pas tellement tort, puisque l'on se rend compte aujourd'hui que le suffrage universel ne répond pas à toutes nos demandes. Je vous propose maintenant une chanson de Paul Barré, écrite au début du XXe siècle, pour illustrer l'histoire de France. Voici donc le vote universel.
Tout France est électeur, quel bonheur, moi tailleur, toi d'horreur, lui paveur, nous v'las au rang d'homme, ce droit qu'est notre sang, qu'est notre chair, nous coûte cher, or mon cher, nous coûte cher, or mon cher, faut savoir ce qu'on nomme. Sachons bien, élire un homme de bien, craignons bien, craignons bien, prendre un propre à rien. Oui, Giroud est électeur, pour faire bon choix, prenons garde, s'agit pas de prendre un loupeur qui s'amuse à la moutarde. Parler n'est rien, il faut agir, pas de gens à blagues suspectes, puisque le monde est à rebâtir, choisissons de bons architectes. Tout français est électeur, quel bonheur, moi tailleur, toi d'horreur, lui paveur, nous v'las au rang d'homme. Ce droit qu'est notre sang, qu'est notre chair, nous coûte cher, or mon cher, nous coûte cher, or mon cher, faut savoir ce qu'on nomme. Sachons bien, élire un homme de bien, craignons bien, craignons bien, prendre un propre à rien. Pouvoir vivre en travaillant est une loi naturelle. Ceux qui font les lois pourtant n'ont jamais oublié qu'elle. Jésus, qui était charpentier, prit des pêcheurs pour apôtres. C'est peut-être dans notre atelier qu'il faudra choisir les nôtres. Tout français est électeur, quel bonheur, moi tailleur, toi d'horreur, lui paveur, nous v'las au rang d'homme. Ce droit qu'est notre sang, qu'est notre chair, nous coûte cher, or mon cher, nous coûte cher, or mon cher, faut savoir ce qu'on nomme. Sachons bien, élire un homme de bien, craignons bien, craignons bien, prendre un propre à rien. La France, à chaque nation, en tout temps servi d'exemple, comme disait Napoléon, toute l'Europe nous contemple. Avec les rois embêtés, faudra peut-être en découdre que nos nouveaux députés ne craignent pas l'odeur de la poudre. tout français était lecteur. Quel bonheur, moi tailleur, toi d'horreur, lui paveur, nous v'las au random. Droit qu'est notre sang, qu'est notre chair, nous coûte cher, or mon cher, nous coûte cher, or mon cher, faut savoir ce qu'on nomme. Sachons bien, élire un homme de bien, craignons bien, craignons bien, prendre un propre à rien.
Aujourd'hui, personne ne met le suffrage universel en doute, et pourtant, lorsque l'on suit un petit peu ces élections, qu'elles soient celles passées, les présidentielles, ou celles à venir, les législatives, eh bien, on se rend compte que les politiques ne se sont pas gênés pour diriger nos opinions, pour montrer du doigt ceux qui votaient mal, pour nous dire qu'on était des complotistes si, que l'on était des extrémistes si, que l'on n'était pas de bons Français si, que l'on n'était pas de bons citoyens si. Donc, que Claudin, il y a de cela plus d'un siècle, ait pu émettre un doute, cela n'est pas si étonnant. Alors, ce qui va se passer avec le suffrage universel, et c'est ce qui nous intéresse évidemment, c'est que d'un seul coup vont apparaître les candidats. Cela ne s'était jamais vu. Et avec les candidats arrivent les professions de foi, les avis, les affiches, les bulletins, enfin, tout ce que l'on subit toujours aujourd'hui. Alors, nos élections, ne nous voilons pas la face, eh bien sont celles de gens extrêmement sérieux, extrêmement ennuyeux. Et au XIXe siècle, eh bien je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup moins ennuyeux et qu'il y avait même de sacrés toqués qui se présentaient aux élections. Et je parle surtout là des élections législatives. Il y avait, à cette époque, un nombre d'excentriques absolument incroyables qui se présenta aux diverses élections. Alors, on peut prendre encore un journaliste du Messager de Toulouse, un journal toulousain, comme son nom l'indique. Et ce journaliste, Simon Brugal, a laissé un texte qui s'intitule « Les candidats toqués ». En fait, « Les candidats toqués », c'est un chapitre d'un ouvrage qui s'intitulait, et qui s'intitule toujours, « Les excentriques disparus ». Vous voyez, déjà à l'époque, il trouvait qu'il y avait un peu moins d'excentriques. S'il revenait aujourd'hui, je me demande ce qu'il penserait. Alors, là encore, je vais vous faire une petite lecture. Donc, Simon Brugal écrit « Quand viennent les périodes électorales, la France est vraiment alors une infernale cuve où bouillonnent toutes les vanités, où grouillent toutes les ambitions, où écument toutes les haines, où s'agitent toutes les fièvres, où se pavanent tous les orgueils. C'est l'époque critique de notre nation. Et grâce à la merveilleuse organisation du suffrage universel, il y a maintenant chez nous de ces crises-là tous les 4 ans. Chacun veut alors dire son petit mot, développer son petit système, exposer son petit programme, poser sa petite personnalité. Le progrès, c'est moi. La question sociale, c'est moi. Le bonheur au peuple, c'est moi. Au carnaval de la politique, aux mascarades de toutes les tartufferies, aux irruptions de tous les déguisements, aux danses de Saint-Guy de toutes les prétentions. Candidat. Ce mot magique donne le vertige à tous les partis. Et pendant 3 semaines, fais-moi prononcer plus de discours, écrire plus de lignes, noircir plus de papier qu'il ne s'en prononce, ne s'en écrit et ne s'en noircit pendant les 4 ans d'accalmie. Conservateurs et révolutionnaires, farceurs et gens sérieux, tous alors paient de leur personne et adressent aux lecteurs les plus éloquents, les plus pressants, les plus abondants appels. Leur profession de foi s'étale partout, sur les boutiques fermées, sur les murs libres, sur les planches des maisons en construction, sur les water closets, sur les parapets des ponts, sur les bornes des routes, sur les portes des mairies, sur les façades des églises, sur les palais de nos anciens rois, et même, sacrilège profanation de la nature, sur les grands arbres qui bordent les chemins. Toutes les surfaces disponibles sont tatouées de promesses mirifiques et de déclarations surprenantes. C'est une véritable orgie d'affiches, de pancartes, de placards. C'est une vraie débauche de couleurs. Quand la place manque, on usurpe. Ôte-toi de là que je m'y mette. N'est-ce pas extraordinaire ce texte ? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on a en plus droit au courrier. On a le droit à la télé, on a le droit aux réseaux sociaux. Donc, les couleurs et la fatigue de toute cette profusion est toujours bien là et toujours identique. Les candidats s'excitent pour essayer de nous convaincre et tout le monde est là à dire « c'est moi qui ». Ce qui est agréable dans mon cher 19e siècle, j'ai envie de dire, c'est qu'au moins, il y avait des journalistes, des auteurs qui étaient là pour parler de ce qui se passait et qui ne se gênaient pas pour exprimer leur amusement, leur désappointement vis-à-vis de tous ces comiques. En 1848, il y a eu des élections, en 1849 aussi, et puis le 2 décembre 1851, il y a eu la prise de pouvoir, enfin le coup d'État du futur Napoléon III, et à partir de ce moment-là, eh bien, il se passa ce qui devait se passer, c'est que les candidats furent surtout des candidats officiels. Donc il n'y avait aucune lutte possible. Vous me direz, tiens, c'est vrai, ça rappelle peut-être, notre 21e siècle, où la lutte est très difficile pour les excentriques. Alors, décembre 51 jusqu'en 1869, donc ça fait quand même pas mal d'années, il n'y eut pas vraiment cet OK. En revanche, à partir de 1869, soit un an avant la chute de l'Empire, on retrouve ces joyeux de rire. Alors j'ai envie de vous donner quelques exemples de ces charmants excentriques. On va prendre quelques-uns de 1848. Il y avait en 1848 un certain Turbi. Sans fortune, il prendra les intérêts du pauvre et les siens. Ça, c'était son programme. Il y en a un autre, un certain Alof Poura, qui promettait de démontrer que le meilleur engrais est l'engrais humain. Parlait-il des déjections humaines ou parlait-il des corps humains ? Ça, c'est à voir. Il y en avait aussi un troisième, un certain l'amiral, qui était sonneur de cloche à l'église Saint-Eustache à Paris. Et il s'était présenté comme mandataire du peuple, car, disait-il, « j'ai été trop malheureux en ménage pour ne pas être heureux en politique ». Programme plutôt succinct. Et puis, il y a eu le fameux Théodore Bach, qui lui d'ailleurs fut élu député. Et pas n'importe quel député, c'était un avocat célèbre, réputé, intelligent, extrêmement lettré, et il fut élu de député de la Haute-Vienne, et surtout, c'est quelqu'un qui, donc, à l'Assemblée, était à la montagne, donc vraiment plutôt à gauche quand même, mais il a été contre la peine de mort, il était pour le droit au travail, il était contre la majorité conservatrice, il était contre la politique de l'Élysée, donc quelqu'un qui savait réfléchir. Simplement, il avait une petite tocade. Il était persuadé que l'homme ne meurt jamais et donc régulièrement, il prêchait sa doctrine de la transmigration des âmes, c'est-à-dire la métempsychose. En fait, il pensait avoir déjà vécu, et pour lui, il était en fait l'ancien Démosthène et l'ancien Mirabeau. Il avait choisi comme par hasard des hommes politiques qui avaient su marquer leurs époques. En 1868, ces joyeux drilles reviennent. Parmi eux, un certain Charlemagne Béjot, qui s'était déjà présenté en 48, propose comme programme d'établir dans le Paris-Lyon-Marseille des trains de plaisir qui permissent aux ouvriers de Paris d'aller passer le dimanche à Marseille au prix de 15 centimes. Si je suis élu, je ferai voter aussi une loi forçant les hommes à se marier avant 22 ans. Cela intéressait beaucoup de vieilles filles, mais malheureusement, elles n'avaient pas encore le droit de vote. En 69, quelques personnages hors du commun apparurent, comme Lorenz. Nommez-moi si vous voulez, ça ne m'amusera pas, mais je me remuerai comme un diable dans un bénitier. Il n'y a de sérieux que les gens qui sont moins bêtes que les autres. Pas mal comme programme. Pierre Mancel. Lui, Pierre Mancel, veut la paix universelle. Et la paix universelle, on l'obtient très simplement, en appliquant la thèse, l'antithèse et la synthèse, comme dans une dissertation. Il s'excusait aussi d'appeler les électeurs « messieurs », parce qu'il aurait préféré le mot « citoyen ». Enfin, il y eut un certain docteur Lostalo Bachouet qui lui soutenait tout le monde. Il soutenait le gouvernement, le Sénat, les commerçants, les ouvriers, la magistrature, l'armée, l'Église, tout le monde. Il ne fut pas élu, évidemment. En 1871, c'est-à-dire au tout début de la Troisième République, un certain Baudemoulin proposait d'éteindre toutes les dettes nationales, sans emprunt, sans impôt, à l'aide d'une composition financière de sa façon, peut-être à la Madoff. Je m'arrête aujourd'hui sur cette année 1871, l'année de la Commune de Paris, l'année de la Troisième République. Malgré toutes les souffrances que provoquèrent, malgré toutes les souffrances de la Commune de Paris, on se rend compte que les candidats qui se présentaient ne manquaient pas d'humour. La Commune aussi eut ses toqués, dont deux, Jules Alix et Babic. Jules Alix était célèbre pour sa théorie des escargots sympathiques. Ces escargots jouaient le rôle de bobines électriques pour la transmission de la pensée. Il disait aussi avoir découvert une comète dont aucun astronome n'avait soupçonné l'apparition. Ce personnage est hors du commun et plutôt sympathique avec ses escargots. Le second, Babic, ne trouva rien de mieux que de mettre en avant une religion inventée dans les années 1830 par un certain Jean-Baptiste de Toureil et qui s'appelait le fusionnisme. Ce Babic fut l'élève, le disciple, peut-on dire, de ce fameux Toureil. Alors, évidemment, l'Église était la nature, la prière n'était que mentale, le Dieu comprenait toute la création, c'était aussi la métempsychose, c'est-à-dire qu'après la mort, les fous devenaient des étoiles, les gens médiocres des légumes ou des animaux primés dans les concours agricoles, les canailles des plantes vénéneuses et parasitaires ou des rongeurs infects vivant dans la pourriture. C'est une manière de voir. Cet humour que l'on retrouve chez les candidats durera jusque dans les années 1980, à peu près. Le dernier en date étant Coluche. Il fit dans la clownerie, alors que d'autres, avant lui, avait fait plus dans l'esprit. et il me semble important qu'une deuxième émission vienne parler de ces personnages hors du commun qui présentèrent leurs candidats entre la fin du 19e siècle et la Première Guerre mondiale. Passez une très bonne journée. Je vous laisse réfléchir sur ces personnages et sur ces textes qui peut-être nous renvoient aux personnages que nous connaissons aujourd'hui et qui viennent nous demander de voter pour eux. Je vous laisse en musique avec une chanson de Roger Cossimon, La Commune est en lutte. À bientôt et au prochain numéro.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Brune et le bois de la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les personnes les infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari.
Les soldats avec nous!
Les soldats avec nous!
Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de juste salaire, et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Il fallait des tyrans, mais être en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir le monde, va l'entendre et ne plus l'oublier.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.